Ce soir, à 21h, France Inter vous invite à partir avec Gwenaëlle Abolivier.
Ce mercredi, nous plongeons dans les archives sonores avec l'un des photographes les plus influents du XXe siècle, l'auteur d'un livre culte, Les Américains.
New York me donne l'électricité, me donne le matériel, la raison d'être curieux encore.
Rendez-vous à New York avec un grand monsieur de l'image, le photographe Robert Franck, en partenariat avec Géovoyage, ce soir à partir de 21h.
France Inter présente Daniel Barenboim, un pianiste remarquable, un chef d'orchestre charismatique. Trois nouveautés, les concertos de Chopin, le récital de Varsovie, la symphonie numéro 6 de Tchaïkovski et un concert Daniel Barenboim et le Divan Orchestra le 21 mai à la Salle Pleyel. À découvrir dans Carrefour de l'Odéon à 16h, toute la semaine prochaine.
France Inter, la différence.
15h04 sur Inter, c'est l'heure de la Bastille-Gissuy et c'est avec Daniel Mermet.
J'abuserai pas de votre temps, j'ai rien de très intéressant qui vaille le coup de passer à l'antenne, mais je vous dis merci beaucoup parce que une fois de plus je me suis régalé à votre émission de mardi 19 là sur les conseillers financiers. Tout ce que je pense, c'était tellement bien décortiqué, détaillé, expliqué par des spécialistes. Ah quel régal, merci, au revoir.
Bonjour, je fais partie de ces 2 millions et quelques. Quelqu'un m'avait recommandé un conseiller financier indépendant. Donc je lui ai demandé un petit complément de retraite avec l'héritage de mes parents, qui correspondait à la vente de la maison. C'est pareil, donc là, je lui ai dit je veux en sécurité, voilà, je ne voulais pas faire de gros intérêts. Et il m'a mis en dynamique. En 2007, je lui ai demandé si les problèmes en États-Unis avaient causé un problème. Il dit non, non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Donc ça a baissé au début de 50%, ça a remonté un petit peu. J'ai perdu 25% de 200 000 euros. Voilà. En plus, il s'est énervé quand je lui ai posé des questions, bien sûr. Voilà. Et maintenant, ben, je ne sais pas si je dois retirer l'argent parce qu'on me dit ben, oui, mais ça va peut-être remonter. Voilà. Et du coup, je ne peux pas toucher à cet argent-là. Voilà. Merci, au revoir.
Oui, Robert Dupuy-Envelay. Je voulais tout simplement dire que la crise de Natixis avait eu un heureux, puisque M. Perrol, lui, a réussi à passer à travers la crise et s'est augmenté en 2010 de 247%. C'est sur le site de Mediapart. Enfin, une bonne nouvelle dans ce triste panorama économique. Deuxième bonne nouvelle, nous n'avons pas d'argent pour les écoles, nous n'avons pas d'argent pour les infirmières à l'hôpital, nous n'avons plus d'argent, mais on a réussi quand même à trouver, en raclant les fonds de tiroir, de l'argent pour faire la guerre. Ah, quand même, ouf.
Salut Daniel, salut les AMG. Voilà bientôt 3 semaines que les parents d'élèves, les élus, se mobilisent pour sauver leur école à Rampouf dans le Lot. La motivation est toujours aussi forte et le mouvement ne s'essouffle pas, bien au contraire. Nous serons à Cahors vers 14h vendredi 22 avril pour assurer une classe en plein air devant la préfecture Place Bessières. Madame Dominique Orliac, notre députée, sera présente pour soutenir notre mouvement. Il faut que nous soyons nombreux pour que notre action ait du poids. Toute personne voulant rejoindre notre mouvement est la bienvenue. Pour plus d'informations, vous pouvez me contacter au 05 65 36 25 22. Voilà, Christelle de Tédirac.
Bonjour. Il y a 20 minutes, je suis arrivé à la gare par le train depuis l'Italie, arrivé à Genève. Il y a eu une scène absolument hallucinante. Des policiers, des soldats et des personnes en civil qui ont fait descendre la plupart des gens à peau légèrement foncée du train. Il y a pratiquement un tiers des personnes qui étaient dans le train qui ne sont pas remontées, quel que soit le type de papier qu'elles avaient sur eux. Certains avaient des cartes d'identité allemandes, anglaises et même un Suisse qui a hurlé comme un damné. Et on est reparti. J'ai rarement vu des scènes d'une violence pareille et d'une stupidité. L'argument qui nous a été donné par un fonctionnaire zélé avec des statistiques était de dire que 22 000 Tunisiens étaient entrés sur le territoire de l'Italie, 22 000. Et il a utilisé le mot invasion, c'est qu'il fallait éviter l'invasion des réfugiés en Europe. On est plus d'un demi-milliard, on doit être 568 millions. Si on met 22 000 pingouins qui viennent venir au chaud et éviter des pruneaux en Europe, c'est l'invasion la plus rapide et la plus impressionnante que je connaisse, parce que si 22 000 personnes envahissent 560 millions de crétins, il faut vraiment qu'on pose les plaques et qu'on laisse tout partir à volo. Bonne journée, à bientôt.
Salut Mernet, salut toute l'équipe. C'était un petit message pour répondre au message d'hier sur l'auditeur qui parlait de Sade et de la philosophie dans le boudoir. Juste un truc, c'était dans ce petit pamphlet politique-là. En fait, il parlait du vote de la Convention de l'époque qui disait qu'il fallait reconnaître la propriété privée. Et Sade, il disait un truc tout bête. Il disait, mais d'accord, vous venez de reconnaître la propriété privée. Mais comment vous voulez que quelqu'un qui a rien, il respecte quelqu'un qui a tout? Oui, il y a 200 ans, hein, toujours d'actualité. Ciao.
Premier mort à Reva en Inde. Ce ne sera pas le dernier.
Et oui, ce tout petit message, ce dernier petit message, nous renvoie à l'endroit d'où nous venons. On vient d'arriver du Japon, de Fukushima à Hiroshima. Ce sera le titre de la série que nous allons vous présenter dans les jours prochains, manif en Inde contre la construction d'une centrale nucléaire, manif violente, avec effectivement au moins un mort. C'est ce qu'on apprend dans les nouvelles. Vous vous souvenez du moment où, après l'explosion du 12 mars dernier, l'ensemble de la classe politique, enfin de nombreux ténors de la classe politique, nous assuraient qu'en aucun cas ce qui s'était passé au Japon ressemblait à Tchernobyl. C'est ce que nous disait Madame Kosciusko-Morizet, c'est ce que disait Éric Besson. Ça n'avait rien à voir avec Tchernobyl, et vous savez comment la catastrophe a atteint le niveau maximal, c'est-à-dire le niveau 7, l'équivalent de Tchernobyl, dont on va célébrer le triste anniversaire ces jours tout prochains. Voilà d'où nous revenons, avec aussi un sentiment assez curieux sur ce qui a été dit sur la pluie de poncifs qui est tombée sur nos amis japonais au moment de cette catastrophe. À savoir, les Japonais stoïques, dignes, pudiques. C'est un peu vite vu, en parlant un peu avec ce que nous avons fait pendant toutes ces journées, avec des amis japonais ou des moins amis, enfin des gens que nous avons rencontrés. Ça, c'est la surface, mais par en dessous, et même la surface devient de plus en plus mince. Il y a un étonnement et même le début d'une grande colère, en tous les cas d'une interrogation sur le nucléaire au Japon. Et puis, on reviendra sur Hiroshima, histoire méconnue en France. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Hiroshima-Nagasaki, d'ailleurs les Japonais disent toujours Hiroshima-Nagasaki, est une page assez méconnue, assez oubliée dans notre histoire, puisque, vous le savez bien, l'histoire est toujours racontée par les vainqueurs. Donc on ira, comme vous voulez, à Hiroshima, puis on verra le lien qui peut exister entre 1945, 2011, et puis avec ses conséquences, ici, l'écho de ce qui s'est passé là-bas, ici. Les Japonais s'intéressent beaucoup, de très près, à la question du nucléaire en France. Ils savent bien que nous sommes un pays très nucléarisé. Et puis, vous voyez, des conséquences en Inde. Quelque chose se passe dans le monde, non seulement du nucléaire, mais en général de l'énergie. C'est le grand sujet qui hante et qui travaille en profondeur le monde actuellement. Voilà. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on était avec Guive en train d'arpenter le Japon, l'équipe de la base, si j'y suis, en a profité pour aller encore embêter ce brave monsieur Naouri. Jean-Charles Naouri, vous le connaissez, c'est le patron de Casino, quelqu'un qui se donne un mal fou pour essayer de faire de son mieux. J'ai sous les yeux le rapport d'activité de Naouri, c'est que... Vous voyez, vous êtes des familiers du monde diplomatique, d'attaques, de tout un tas de gens et de mouvements plus valeureux, plus généreux les uns que les autres. Et bien, il manquait Casino, s'engager concrètement au nom de la solidarité, par exemple. Je vois des petits-enfants de toutes les couleurs qui sont heureux et qui sourient. Voilà, c'est ça, Casino, développer les compétences et les talents. Vous voyez, Casino franchit le cap de 10% de travailleurs handicapés. Cultiver la diversité, le partenariat durable au service de l'emploi à Paris. Employeur engagé, c'est formidable, non ? Employeur engagé, le groupe Casino déploie une politique sociale innovante qui valorise la diversité et favorise le développement des compétences, des talents et la promotion interne de ses collaborateurs. C'est formidable. Et malgré ça... Alors que, voilà, on était au loin, l'équipe de la base, enfin une partie de l'équipe de la base, si j'y suis, s'est rendue avec un certain François Ruffin, du journal Fakir, à l'assemblée des actionnaires qui se tenaient à la salle Wagram. Ce sont des récidivistes. Déjà l'année dernière, ils avaient troublé cette assemblée des actionnaires. Ils y sont retournés cette année et ils en ont fait l'émission que vous allez entendre, le reportage que vous allez entendre jusqu'à 16h. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Tu l'as suivi le long des quais, cette petite nana si parfumée. Pas mal roulé un beau petit cul attaché et caisse, boulot en vue. Moitié Chanel, moitié Guerlain, faut pas rêver, pauvre Séraphin. Ta vie, à toi, c'est Saint-Martin. Elle ne doit pas vivre en HLM, la petite nana en tailleur crème qui fait claquer sur le pavé les talons hauts de ses souliers. Moitié canal, moitié social, faut pas rêver, pauvre Séraphin. Ta vie, à toi, c'est d'avoir faim. Dans le reflet d'une vitrine, fait une petite pause, elle se veut clean. Elle se sourit comme dans les films, fronce les sourcils, voilà qu'il bruine. Moitié Chanel, moitié Guerlain, faut pas rêver, pauvre Séraphin. Ta vie à toi, c'est tendre la main. Pour se protéger de la pluie sûre, c'est chez Dior qu'elle se réfugie. Elle te regarde négligemment, pour ces gens-là, t'es transparent. Faut pas rêver, pauvre Séraphin. Moitié canal, moitié social, ta vie à toi, c'est d'avoir mal. Alors un peu plus tu te plies, y a pas grand chose qui te sourit, peut-être un peu ta cape de pluie qui cache les larmes de ta vie. Faut pas rêver, pauvre Séraphin, moitié social, moitié SAMU, ta vie à toi, c'est dans la rue. Bonne journée à tous.
Salut à tous. Pour vous indiquer que samedi prochain à 15h30 aura lieu le repère de la basse si j'y suis de Montauroux, aux estuaires du lac, autour du lac de Saint-Cassien. Et chez Hervé et Marie-France. Le thème qu'on a retenu, ben, c'est une pétition qu'on fait circuler, parce qu'il y a des municipalités qui préparent leurs plans locaux d'urbanisme, et donc on sort une pétition pour la sauvegarde des terres agricoles et fertiles du canton de Fayence. Donc le repère, on parlera de ça, parce que c'est une initiative locale qui peut avoir des répercussions. On parlera aussi du séjour le 14 et 15 mai prochain sur le plateau des Guillères, et le car qui partira de Nice et qui s'arrêtera à Cannes, Mandelieu, Aix, enfin là où il y aura besoin de s'arrêter, pour essayer d'être le plus nombreux possible à la fois fêter les acquis du Conseil national de la résistance, les nouvelles résistances, avec je pense la participation d'une résistance tunisienne, et puis ça fera un moment à passer ensemble, donc on va se régaler. Portez-vous bien, ciao viva, et rappelez-vous, hein, elle l'a dit Parizeau, il n'y a aucun problème de répartition des richesses. Hein. De son point de vue, ça semble assez logique. Viva, portez-vous bien.
À tous les AMG de Grenade sur Garonne, je vous annonce la projection ce vendredi 22 avril de Chomsky et compagnie au cinéma de Grenade à 21h. En conclusion de sa projection, nous discuterons de la création du repère des amis de la basse si j'y suis sur le territoire de Grenade. Nous comptons sur votre présence militante. C'était Nicolas de Grenade.
D'accord, alors c'est le guichet qui sera en entrant à gauche.
D'accord.
Merci, je vais demander de mouiller votre sac, s'il vous plaît, et de passer en sous-fond à la gauche. Merci. vous passez à gauche, mais vous allez aller faire juste là. Et la salle en bas à gauche.
Okay.
Bonne journée.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base, j'y suis. Casino, une démarche nourrie par le dialogue.
Flight number 2, arriving from...
La proximité, c'est la vie. Nous avons sûrement la volonté d'être deux fois proche. Proche d'abord dans le monde de magasins, c'est le maillage du territoire. Il n'y a pas un département en France où nous ne sommes pas présents. Et puis, c'est être proche dans la relation avec nos clients. Quand on fait plaisir à un client, c'est bien. Donc finalement, être commerçant, c'est aimer les gens, c'est aimer aller vers les autres. En province, à Paris, en Thaïlande, ou partout dans le monde où est implanté le casino, en fait, la proximité, c'est vraiment dans les chaînes du monde.
Évidemment, la prise de son n'est pas idéale, mais la situation n'est pas idéale non plus. Vous avez entendu le comme ça. C'est pas quelqu'un qui se mouche, c'est quelqu'un qui se marre. Et qui c'est ce quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ce quelqu'un qui est là dans cette assemblée des actionnaires le 17 avril à Paris, l'assemblée des actionnaires du groupe Casino? Vous savez que toutes les grandes entreprises en France, les grandes vraies entreprises, chaque année, réunissent leurs actionnaires pour leur donner des résultats et puis leur décrire comment marche l'entreprise dans laquelle ils ont placé leurs sous en espérant en tirer un maximum en faisant le moins possible. C'est-à-dire, c'est le système des beaux vieux rentiers d'autrefois. Or, cette fois-ci, eh bien, il y avait un certain nombre de troubles faits. Oh, pas tellement, juste une quinzaine d'hurluberlus hirsutes qui étaient venus là. Pourquoi donc, que faisait-il et qui était-il? Et que reproche-t-il à Casino et au bon monsieur Jean-Charles Naouri, patron de Casino, 61e fortune de France. D'ailleurs, au passage, bravo Jean-Charles Naouri, puisque l'an passé, vous étiez 63e fortune de France. Vous avez avancé de deux cases et en cela, évidemment, là-bas, si j'y suis, vous félicite. Que reproche cette bande d'énergumènes à Casino et à monsieur Naouri? Il voudrait avoir des réponses à un certain nombre de questions qu'il se pose. Notamment la libéralisation de la finance dans les années 80. Libéralisation dans laquelle M. Jean-Charles Naouri, attaché au ministère de M. Pierre Bérégovoy, a joué un grand rôle. Ensuite, la faillite de Moulinex en 2001. Ensuite, la souffrance au travail des gérants non salariés des magasins Casino. On en a reçu dans ces émissions, on a fait des reportages sur les conditions de vie et de travail des petits gérants de Casino. Et vous avez compris que c'est pas rose pour tout le monde. En tous les cas, voilà trois angles qui intéressent ces énergumènes et qui voudraient avoir des réponses de la part du patron, M. Jean-Charles Naouri. Mais de quoi se mêlent-ils? Eh bien, ils font du journalisme. Oui, ça s'appelle du journalisme. C'est-à-dire demander des comptes à quelqu'un qui exerce un pouvoir particulier, un très grand pouvoir, sur des salariés, sur des clients, sur des grandes entreprises, sur des fournisseurs. Voilà quelqu'un qui a de grandes responsabilités. C'est pas un Pékin commun, normal, classique. M. Naouri. Et à ce titre-là, puisqu'il détient ce pouvoir, si on veut bien accepter, et nous acceptons volontiers, que le journalisme, c'est un contre-pouvoir, c'est-à-dire qu'il pose des questions au pouvoir sur sa légitimité, sur son action, eh bien, ce que vous allez entendre jusqu'à 16h dans la basse, si j'y suis, c'est simplement une forme de journalisme, des questions posées à M. Jean-Charles Naouri lors de cette réunion des actionnaires, une démarche nourrie par le dialogue. C'est jusqu'à 16h et c'est là-bas si j'y suis.
Je voulais investir sur des vies, capitaliser du vécu. CAC 40, Nasdaq, Nikkei, bref, amasser du PQ. La compagnie m'a conseillé de placer sur les petites gens. RMI, Smicard, les frigos vidés sans argent. Il sera facile de déterminer mon rendement. L'expert en transaction l'a misé par son engagement. Les besogneux croissent et je crois que leur expansion est ma chance. Si ça continue comme ça, je vais partir plutôt en vacances. Pour m'assurer des rentes aux enchères, je spécule sur leur descente aux enfers. Un peu plus beau fait décoller mes affaires. J'achète puis revends des actions pas chères. Mon penchant pour les tendances retourne les courbes à l'envers. Il me faut jouer des tours pour éviter le crack. La pagaille sociale fait monter mon cours. L'argent que je traque m'en fait gagner un peu plus chaque jour. Comme chaque existence que je braque. Action, fonds de pension, stock option, inflation. De la pauvreté, je suis la subvention. Pas de compassion, ni commisération. Leur modestie se doit à ma contribution. C'est la société de l'avoir. Mes devises sont mes faire valoir. Ma devise n'est plus d'être mais d'avoir. Le bonheur déguisé derrière un présentoir. La source des crédits. La bourse ou la vie. Achète mon argent,
achète mon argent,
j'en ferai un placement. C'est la bourse,
c'est la
vie,
sous la vie.
Bienvenue,
bienvenue dans la République financière.
Les dividendes se partagent sur le parvis. Leur raquette de la démocratie par des actionnaires.
Assemblée générale des actionnaires, c'est presque un repère de la base si j'y suis, qui est délocalisé, non pas en dessous de la bourse comme l'an passé, mais dans une salle très prestigieuse à côté de l'Arc de Triomphe. Voilà, bah aujourd'hui c'est le triomphe de Jean-Charles Naouri, PDG de Casino, qui va recevoir la visite, comme l'an passé, d'une délégation d'anciens salariés de Moulinex et de gérants de petits casinos. On va aller rejoindre Maggie, une ancienne salariée de Moulinex, qui va aller demander à Jean-Charles Naouri de rendre les 25 millions d'euros de plus-value qu'il a dégagés en se retirant de Moulinex en 94, alors que l'action venait de prendre 21% suite à l'annonce des quelques 2000 licenciements dans les usines Moulinex de Normandie. On va aller rejoindre aussi Sylvain et Joël, deux gérants de petits casinos qui vont aller demander à Jean-Charles Naouri de bien vouloir les payer aux 35 heures avec des heures supplémentaires. Et puis pour ce qui est de la fakirie et puis de là-bas si j'y suis, on va aller collectivement demander à Jean-Charles Naouri si oui ou non il accepte de débattre de son action en tant que directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy, ministre des Finances entre 84 et 86. Période pendant laquelle il a été l'inspirateur de toute une série de mesures qui ont déréglementé la finance et qui ont complètement libéré le capitalisme financier tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors on va aller demander à Jean-Charles Naouri si oui ou non il accepte de débattre devant des élus, des syndicalistes, des économistes et les caméras et les micros de là-bas si j'y suis pour débattre de ce capitalisme financier dont il est un des artisans français. Voilà, on est près du butin. On a déjà passé le camion de policiers, les agents des renseignements généraux. Il nous reste plus qu'à passer les hôtesses d'accueil et puis les quelques 60 vigiles qui nous réservent un accueil triomphal.
Voilà, vous avez compris, façon de procéder. Voyez, un peu comme ça, on se cache, quoi. Hein, c'est pas des gens très très francs, ces journalistes-là. Hein. C'est pas des gens qui vont directement sur un plateau de comme on voit à la télévision, comme on entend à la radio. Enfin, quoi non, ils, vous voyez, c'est... Voilà, on va dans les toilettes, on se cache. Enfin, il y a quelque chose de bizarre. Ben, ce qui est bizarre, pour eux en tout cas, c'est que M. Naouri ne veut pas répondre à leurs questions. Et pourquoi s'acharner sur ce pauvre monsieur Jean-Charles Naouri, 61e fortune de France? C'est pas Messier, quand même. C'est pas Tapie, c'est un Wunderboy, comme on dit, un Wunderboy. Discret. Lui, il est discret, il fait tout bien dans les clous, il développe son entreprise mirobolante qui est... J'en reviens pas, je suis en train de feuilleter ça. C'est quand même formidable tout ce que Casino peut faire pour nous. Hein. Et c'est dans le monde entier. Dans le e-commerce, par exemple, formidable. Dans l'immobilier. Une stratégie immobilière... innovante, fortement créatrice de valeur. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que ça peut représenter. La production locale, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent en train de, dans leur champ, là-bas, dans le sud, en train de planter leur... de fabriquer leur pistou, par exemple. Voilà, développer les filières de production locale. Monsieur Naouri pense à eux. Et alors, il a un truc particulier, Monsieur Naouri, c'est qu'il mesure 2,80 m. Ça, c'est quand même curieux, hein. À en juger par ce petit livret sur le rapport d'activité par rapport aux autres collaborateurs. Il est beaucoup plus grand. Voilà, la mise en page fait que M. Naouri est beaucoup plus grand. Je vois les messieurs du comité exécutif qui sont sur cette image. C'est assez curieux, tout ça. Suffisamment curieux pour attirer la... exciter la curiosité de ces énergumènes.
Oui, je t'arrête, pas pour les activités poursuivies. C'est établi à 559 millions d'euros. C'est 3% de plus qu'en 2009.
On a réussi à rentrer finalement dans l'Assemblée Générale des Actionnaires de Casino, mais on est ultra repéré. Il doit y avoir une soixantaine de vigiles à peu près en tout, dedans, dehors.
Déjà, quand on est passé à l'accueil, il nous avait repéré.
Alors, depuis l'année dernière, il y a quand même eu des bonnes nouvelles pour Jean-Charles Naouri, parce que vous savez qu'il était 63e fortune française, avec à peu près 450 millions d'euros. Et depuis l'ancienne Assemblée Générale des Actionnaires, sa fortune a augmenté de 150 millions à peu près.
Il est quoi, deuxième?
Alors, il est 61e. C'est quand même... C'est la fête à Jean-Charles aujourd'hui. Là, ils annoncent la structure financière solide. C'est vraiment une salle encore plus luxueuse, peut-être que les dessous de la bourse, avec des lustres énormes. Là. Il y a 4 lustres autour de nous, on se croirait dans un décor de théâtre.
Le théâtre d'Aouri.
Chiffre d'affaires en hausse de 4,5%. Monoprix Casino, Géant, Franprix. Le chiffre d'affaires augmente, hein, 4,5%. C'était le montant de la hausse de dividendes de l'an passé, 4,7%. Performance satisfaisante, croissance à deux chiffres, hausse de la part de marché du groupe en France. C'est des courbes ascendantes, hein, toutes.
Mais comment faire affaire? Vous allez les faire dehors.
Nous avons inclus la quote-part des pays émergents dans le chiffre d'affaires, vous voyez pour le tableau à droite. Nous sommes de plus présents dans des pays très porteurs, peu de pays, mais très porteurs. Le Brésil, la Colombie, la Thaïlande et le Vietnam. Ce sont des pays à très fort potentiel de développement. En France, la stratégie a consisté à accroître l'exposition aux formats les plus porteurs, qui sont les formats de proximité et de discount. Passons maintenant aux commentaires sur la responsabilité sociale d'entreprise. Ce qu'on appelle la RSE, c'est une démarche dans laquelle Casino s'inscrit depuis maintenant longtemps, d'abord sous les auspices de la famille Guichard, je salue Antoine Guichard ici présent, ainsi que Gilles Pignoncelli. Et depuis quelques années, nous avons pris une série de mesures en faveur des droits de l'homme, des droits du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Si l'on passe maintenant à ce qu'on appelle les relations sociétales, et le dernier volet de cette politique en matière de RSE, d'abord la fondation d'entreprise Casino, nous avons créé une fondation il y a 12 ans, en faveur de l'enfance en France et dans le monde, qui montre bien l'affection vers l'éducation, la culture, que nous souhaitons donner.
C'est un des volets les plus intéressants, c'est le volet philanthropie du groupe Casino. C'est les fondations en faveur de l'enfance. et puis toutes les actions qui visent à prévenir l'exclusion culturelle et sociale des enfants défavorisés ou confrontés à la maladie. Il faut toujours ce genre de fondation pour faire accepter des politiques sociales largement en défaveur des salariés et des travailleurs. À notre ligne, on est 8, il y en a 4 qui dorment. Moitié.
Mais tu sais, le fait d'être actionnaire dans un groupe comme ça qui se porte pas trop mal, qui fait des bénéfices. Pour les gens, je vois comme ça à côté de face, là, ça leur donne une certaine forme de pouvoir. Et puis peut-être que c'est des gens qu'on n'a jamais eu, donc nous on vient leur casser les pieds. En fin de compte, on est là, on les empêche de tourner en rond, de croire qu'ils sont importants et on les fait chier. Donc. Ils comprennent pas qu'ils sont en train de se tuer eux-mêmes, mais c'est pas grave. Parce qu'en fin de compte, eux, ils s'enrichissent. C'est pineux, côté d'eux, en face. Mais ils s'en rendent pas compte.
Qu'est-ce
qu'ils en ont à péter, des pauvres ?
L'unification des fonctions du président et du directeur général en 2005, assurée par M. Jean-Charles Néonry, a permis, dans un environnement en constante évolution et particulièrement concurrentiel, de renforcer la cohésion entre stratégie et fonction opérationnelle et ainsi de favoriser et de rendre plus efficaces les processus de décision.
Rémunération du PDG, 700 000 euros fixes depuis 2005, plus une part variable, pouvant représenter au maximum 100%. Ça veut dire que ça peut tout à fait doubler. C'est-à-dire que le salaire moyen de Jean-Charles Néonry est de 1,4 million d'euros.
D'accord, c'est pas mal.
La rémunération globale au titre de 2010 du président directeur général s'est ainsi élevée à 1,233 000.
Pour 2010, il a perçu 970 833 euros en plus de ses jetons de présence d'administrateur, plus ses 1,4 million d'euros de salaire annuel. C'est-à-dire que c'est 2 millions d'euros par an.
Il s'assure de la cohérence des plans d'action engagés par l'ensemble des filiales et des pôles opérationnels, et à ce titre, en les arbitrages...
Ça donne le tournis quand tu veux le donner 200 euros au mec qui gagne le prix.
Oui, voilà ce que disait tout à l'heure notre auditeur qui citait le divin marquis de Sade, qui écrivait « Dans français, encore un effort pour être républicain ». Comment voulez-vous que ceux qui ont rien admirent ceux qui ont tout ? Et là, c'est le cas des réflexions un peu désenchantées que vous entendez sont celles de Maggie Lalizel. Vous vous souvenez d'elle, on l'a rencontrée à plusieurs reprises dans nos reportages chez Moulinex à Cormelles-le-Royal, où elle est une ancienne ouvrière syndicaliste de Moulinex, et elle anime une association qui, depuis 10 ans, depuis la fermeture de Moulinex, entretient le lien entre les anciens salariés qui se battent pour essayer de d'obtenir des dédommagements de ceux, surtout celles, parce que c'était à 70% des femmes qui étaient chez Moulinex, qui ont été jetées à la rue il y a une dizaine d'années. Et donc, il y a 700 adhérents dans son association. Donc, on suit avec patience, vous avez vu, cette assemblée des actionnaires. C'était le 17 avril dernier, jeudi, à la salle Wagram. Et voici les propos de M. Néonry soi-même.
Merci.
La séance des questions commence.
Et la question est possible. Les marques de distributeurs,
oui,
les euros, alors ça, les
actionnaires, moi je vous
donnerai
pas.
Il y a
des consignes, c'est ça.
Voilà, j'ai des consignes.
C'est quoi les consignes ?
Mais si vous faites un calcul chez nous, c'est pas très compliqué.
On est actionnaire,
vous êtes apporté aux 310 millions que vous versez à
l'actionnaire. Voilà, on est actionnaire, sinon on ne serait pas.
Mais je le sais, mais je comprends, monsieur. Mais je ne peux pas vous donner la parole.
Je ne veux pas nous donner le micro.
Non, ils ne vont pas nous passer le micro, je vous remercie.
Parce que c'est aussi, je
vais dire. L'ordre a été donné de ne pas nous donner la parole. D'accord ?
On la prend.
Donc qu'est-ce qu'on fait ?
Ce qu'on peut faire, c'est laisser passer les questions.
On laisse passer les questions.
Avant de dire c'est fini.
Là, on se met sur un coin de la tribune et on essaye d'avoir collectivement la parole. Si on nous la refuse,
à la tribune.
On intervient à la tribune. On est d'accord ?
Ils
ne passeront pas.
Est-ce qu'on peut faire un vote ? Si jamais la parole ne nous est pas donnée, on lui rappelle que normalement, tout petit actionnaire a le droit à la parole, on serait les seuls à ne pas y avoir droit. Tout ce qu'on se réclame, c'est notre bon droit. Si mon bon droit nous est refusé, on interviendra à la tribune. Qui est d'accord avec cette manière de fonctionner ?
On est 15, il y a 1, 2, 3, 4, 5, voilà.
C'est bon ?
On est tous d'accord. Donc là, il y aura un face-à-face qui va se mettre en place avec les vigiles qui s'organisent aussi. On va prendre l'allée centrale de l'Assemblée des actionnaires pour aller collectivement juste à côté de la tribune pour attendre d'avoir le micro. Voilà, on avance, on lève la main.
On a des questions ?
Oui ?
Oui.
On voudrait un micro, s'il vous plaît.
On voudrait un micro. On a le droit de s'exprimer dans cette assemblée générale, alors que nous avons des actions.
Est-ce qu'on pourrait avoir
une question, monsieur ?
Non, on veut le micro.
On veut le micro, monsieur.
Petit actionnaire, on réclame le micro.
On réclame le micro, monsieur. On est actionnaire.
Voilà. Tandis qu'on nous apporte Sylvain. Le micro. Voilà. Sylvain va prendre la parole.
Oui, bonjour. Je me permets. Donc, c'est une question concernant les petits casinos. Donc, je suis Sylvain Sagnier, et je suis gérant. Donc, je voulais savoir simplement s'il est normal qu'un directeur commercial se permette de congédier des gérants par téléphone. Donc, est-ce que c'est une pratique qui va se démocratiser ? C'est la première question. Et d'autre part, donc, la deuxième question, c'est savoir que, donc, sachant que les gérants travaillent environ 70 heures chacun, et je voudrais savoir si vous comptez enfin rémunérer donc, les gérants et la gérante au minimum avec un SMIC. Par rapport à la base de 35 heures. Merci.
Très bien. Je vais répondre aux questions posées par M. Ruffin là, récemment dans la presse. Je vais globaliser. Et je vais commencer d'abord par le fond, donc le statut des gérants mandataires, ensuite pour parler de la forme. Sur le fond, il est important de rappeler au fond ce qu'est le statut gérant mandataire. C'est un statut qui est défini par le Code du travail. Ce statut concerne près de 4000 personnes en France. Le taux de turnover, donc le taux de changement de départ de gérant mandataire, s'est établi à 9%. Et il y a eu, en 2010, 1,7% de départ décidé par l'entreprise. Très concrètement, il y a eu 12 dossiers judiciaires, donc 12 dossiers qui font l'objet de contentieux social engagés en 2010. Pour l'essentiel, il faut le rappeler, ces 12 dossiers reposent sur ce qu'on appelle l'insuffisance de caisse. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas dans la caisse les sommes qui devraient y être. Ça correspond à des pratiques que nous condamnons, donc il nous paraît normal de défendre vos intérêts actionnaires de casino contre ces pratiques. Qu'en est-il ? Concrètement et très précisément sur le plan juridique du statut du gérant mandataire. Alors, il faut rappeler que la Cour de cassation, sollicitée de manière régulière et fréquente, a confirmé de manière régulière et fréquente ce statut. Et donc, la Cour de cassation s'est prononcée depuis 2009 sur 5 affaires et a confirmé systématiquement le statut de gérant mandataire. Donc, c'est un statut qui fait le consensus total au sein de l'entreprise. Donc, en effet, il n'est pas question de changer ce statut. Ce statut sera maintenu comme il est maintenu depuis maintenant pour plus de dizaines d'années.
Allô, oui ?
Allô, maître Bonfils ?
Oui, c'est le même.
Vous êtes bien un avocat des gérants de petits casinos ?
Oui, tout à fait.
Je voulais vous demander, maître, votre bureau est vide et vous êtes au chômage partiel, c'est ça ?
Alors, au contraire, je suis assez surpris parce que mon expérience me conduit à penser ou à constater que le contentieux afférent à ce statut dans la branche proximité du groupe casino se développe. J'ai sur mon bureau une vingtaine de dossiers actifs de gérants casino qui ont contesté la rupture de leur contrat. Je tiens à préciser que le problème, effectivement, n'est pas le statut légal. Le statut, de toutes les façons, il est prévu par la loi, sauf que la loi pose des conditions et que c'est le respect de ces conditions qui peut parfois poser problème. Les deux conditions étant la faculté d'embauche du personnel, les gérants doivent pouvoir embaucher à leurs frais du personnel. Cette faculté existe en théorie, mais pratiquement, quand on gagne 1 400 € net par mois à deux, c'est-à-dire moins que deux SMIC, il est difficile d'embaucher qui que ce soit. Et la deuxième condition légale, c'est l'indépendance et la liberté de gestion. Celle-ci n'est pas toujours parfaitement respectée.
Vous êtes 4 avocats, vous êtes partagé le territoire français. Vous-même, vous en avez une vingtaine. Vos collègues, ils en ont à peu près combien ?
Alors, je ne peux pas parler pour mes confrères. Il faudrait leur demander, mais à mon avis, un chiffre au moins équivalent.
Allô ?
Allô, maître Fromentin ?
Oui, bonjour.
Vous continuez toujours à défendre les gérants non salariés de petits casinos ?
Je défends des gérants non salariés, j'en demande la requalification, ou je lutte contre les déficits d'inventaire, ou contre les ruptures de contrats abusives, et ça représente environ 80 personnes en tout. Ces problèmes des déficits d'inventaire ne peuvent absolument pas et ne sont pas assimilés à des vols. La preuve en est que jamais le groupe Casino ne poursuit au pénal. Jamais. Il va systématiquement devant les tribunaux de commerce pour faire payer les déficits d'inventaire. Moi, je peux vous dire que dans les causes des déficits que je vois dans mes dossiers, la première des causes, c'est l'absence totale de formation des gérants à la gestion et d'autre part, l'absence de moyens de contrôle, d'outils de contrôle des stocks. Et j'ajouterai une dernière chose, c'est que ces déficits, la société les connaît en temps réel. Elle ne les découvre pas le jour des inventaires comme elle prétend le faire croire, puisqu'ils ont des outils informatiques de gestion qui leur permettent en temps réel et en direct, par télétransmission, de savoir l'état des comptes de la structure. Donc il y a un moment où il y a un écart qui manifestement n'est plus un écart de gestion normale, et à ce moment-là, ils devraient s'en inquiéter. D'autant que le contrat, comme les accords collectifs qui s'appliquent à la profession, font obligation au mandant, donc à la société Casino, d'apporter aide et assistance comptable, de gestion, administrative, aux gérants, ce qu'ils ne font jamais. C'est bien un problème structurel, c'est pas un problème de gérant. Et en aucun cas, sauf des cas évidemment exceptionnels, la nature humaine est ce qu'elle est, hein, sauf des cas exceptionnels, ce ne sont pas des vols. Les déficits sont des déficits de gestion en général, et ces déficits de gestion, la société en est informée et pourrait les prévenir. Voilà.
Alors, pour bien prouver à ces petits actionnaires que le statut de gérant non salarié faisait l'objet d'un consensus total au sein du groupe Casino, Jean-Charles Naouri a expliqué que la Cour de cassation s'était prononcée depuis 2009 sur 5 affaires, et sur ces 5 affaires, elles avaient toutes confirmé systématiquement le statut de gérant mandataire.
Je vous dis non, c'est absolument faux, puisque j'ai deux décisions qui ne peut pas ignorer, puisqu'elles sont de janvier 2011, 19 et 25 janvier 2011, de la Cour de cassation, qui requalifie des contrats de gérants non salariés en contrats de travail salariés de droit commun.
Donc quand Jean-Charles Naouri dit que vraiment ce statut est désirable et désiré, et d'ailleurs que tous les ans 4000 personnes veulent devenir gérants non salariés, vous, votre réponse en tant qu'avocat, c'est de dire qu'il y a beaucoup de contentieux, vous, oui. Vous en avez au moins 80, et que ce statut est loin de faire l'unanimité.
Ah, mais moi, je pense que le nombre de personnes en contentieux se chiffre par centaines. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue, il y a vraiment beaucoup de contentieux et trop de contentieux pour que le statut puisse être considéré comme enviable.
Voilà ce qu'on peut dire sur le fond du statut de gérant mandataire. Maintenant, sur la forme. Quand j'ai vu, cher Monsieur Ruffin, que sur votre blog, vous mentionniez la CGT, je me suis interrogé. Je me suis dit, est-ce que la CGT soutient Monsieur Ruffin ? Nous avons appelé la fédération de la CGT et nous avons appelé la CGT de Casino. La CGT nous a dit de manière extrêmement claire que vous aviez été reçu par deux fois la Fédération et qu'ils avaient été clairs avec vous pour vous dire qu'ils ne partageaient pas votre façon d'agir et de penser. Que si vous agissiez aujourd'hui, lors de l'AG de Casino, les choses sont claires. La Fédération CGT ne soutient ni ne reconnaît votre action. Elle ne veut pas être l'objet d'une manipulation. Ce sont ces termes. Je crois que ça clarifie un point qui est, au fond, votre soutien social au sein de l'entreprise et quelque part la légitimité de votre action sur le plan de la défense supposée des intérêts des uns et des autres. Alors au-delà de ça, je dirais que c'est tout à fait surprenant que vous interveniez aujourd'hui sur les gérants mandataires, alors que depuis un an, quand vous êtes venu l'année passée, vous n'avez à aucun moment, depuis l'année passée, au fond, montré un intérêt quelconque pour les gérants mandataires dans l'année écoulée. Donc votre intervention se résume à une intervention en Assemblée Générale, mais en aucune façon par la prise en compte des intérêts réel, gérant mandataire, au fil de l'année. Donc, votre démarche apparaît insolite. Et au fond, elle renvoie à la question de savoir au nom de qui vous parlez. Et si ça n'est pas une polémique personnelle à mon égard, et dans ce cas-là, la question se pose de savoir, au fond, de la part de qui. Je ne réponds pas à la question aujourd'hui, mais simplement, je la pose.
Allô ?
Allô, monsieur Ferrat ?
Oui, je fais partie intégrante de la section donc, qui a été mise en place par la Fédération CGT Commerce concernant les gérants non salariés, qu'ils soient Casino, Vin Nicolas ou autres.
Monsieur Ferrat, j'étais hier à l'Assemblée Générale des actionnaires du groupe Casino, et puis nous étions une quinzaine à peu près, dont des anciens de Moulinex et des petits gérants non salariés de Casino. Monsieur Naouri nous a répondu que nous étions en train de manipuler la CGT, puisque la CGT ne soutenait pas notre action, notre pensée, notre vision, et qu'elle était absolument en désaccord avec le fait d'aller poser la question directement au PDG, quoi. Est-ce que vous, qui êtes à la CGT, vous pouvez nous donner un point de vue, le point de vue ferme et officiel de la CGT?
Alors, écoutez, une chose est sûre, c'est que nous ne partageons pas du tout le point de vue de M. Naouri. Parce que pour nous, des gérants qui travaillent 70 heures par semaine, dont lorsqu'il s'agit d'un couple, vous en avez un qui gagne 1545 euros et l'autre 700 euros, vous comprenez très bien que nous ne pouvons pas du tout partager l'avis de M. Naouri. Et à la CGT, je pense que nous sommes des grands garçons et des grandes filles pour savoir qui manipule qui. Et du côté de manipulation, je pense que la société a une très grosse expérience, y compris à l'égard de militants CGT. Donc, vous comprenez très bien que nous ne pouvons pas avoir la même appréciation des choses. Monsieur Naouri, peut-être qu'il travaille 70 heures par semaine, mais il est grassement bien payé, alors que ceux qui le font vivre font 70 heures, mais sont très mal payés. Ils gagnent à peine 4 euros par heure. Et nous trouvons ça honteux. Et je profite de votre antenne pour lui dire, si M. Naouri pense que nous avons tous tort et qu'il est en droit de faire ce qu'il fait au gérant, moi je lui propose un débat, un face-à-face, à lui, à son encadrement et à tous ses avocats, en présence de la presse, qu'on en débatte sur les droits des gérants. Si je suis en tort, je ferai toutes les excuses et je me retire de mon activité syndicale. Mais s'il est en tort, j'espère qu'il le reconnaîtra. Mais il serait peut-être temps que son entourage cesse de lui dire ce qu'il aime entendre et qu'il lui dise la vérité. Monsieur Naouri, vous ne respectez pas les droits des gérants. Les gérants, ce ne sont pas des petits nègres qu'on fait travailler avec une orange.
Donc quand Monsieur Naouri dit qu'il vous a appelé et que vous lui avez confié...
Moi, il ne m'a pas appelé. Ouais. Il aurait appelé un certain monsieur Thierry Ménard, qui est secrétaire fédéral et délégué syndical CGT du groupe chez Casino. Mmh. Or, ce monsieur ne parle en son nom propre, sûrement, parce qu'il ne représente pas la CGT des gérants. Et la fédération, au jour d'aujourd'hui, car je me suis renseigné, il n'y a pas eu de réunion dont la fédération aurait décidé de soutenir M. Naouri. Je le connais que M. Thierry Ménard a pour habitude de recevoir les dirigeants Casino dans ses bureaux à la fédération, ce qui a été fortement contesté par la commission exécutive de la fédération, puisqu'il les a reçus dans son bureau en toute opacité. On ne sait pas de quoi ils ont parlé, mais c'est quand même une première que la CGT reçoive des gros patrons dans les bureaux. Donc M. Ménard, il parle pour lui. Il n'a pas demandé non plus l'avis des syndicats CGT du groupe Casino. Il n'a pas demandé l'avis du syndicat CGT gérant Casino. Donc le soutien qu'il a pu apporter à M. Naouri... Est-ce que ça a un lien avec le fait que ce monsieur soit devenu tout d'un coup chef de magasin sans qu'on sache comment et pourquoi? Je ne sais rien. En tout cas, il n'a pas l'approbation de la CGT Casino gérant.
Je suis désolé pour les actionnaires qui sont présents de l'inconfort que nous allons vivre dans les quelques minutes qui viennent, créés par l'intervention de M. Ruffin.
Jean-Charles Naouri.
Mais je crois qu'il est important de laisser la parole à M. Ruffin et à ses collègues.
Président du groupe Casino.
Y a-t-il d'autres questions?
Oui, monsieur. Je ne me présente plus, j'étais là l'an dernier, mais je vais quand même le faire par correction. Je m'appelle Maggie Lalizelle, je suis la présidente de l'association des anciens Moulinex. Je vais être très courtoise et très correcte avec vous, monsieur Naouri. Monsieur Jean-Charles Naouri, nous vous demandons une chose très simple. Êtes-vous prêt à rendre aux anciens salariés de Moulinex les 25 millions d'euros de bénéfices que vous avez retirés de cette débâcle? Oui ou non, puisque c'est vous qui avez précisé ce chiffre, puisque une commission d'enquête avait été demandée à l'Assemblée nationale où on approchait les 50 millions d'euros. Et vous, vous avez donné une précision de 25 millions d'euros. Donc aujourd'hui, par rapport à tous nos camarades qui sont restés au chômage grâce à des financiers comme vous, je vous demande, est-ce que vous êtes prêt, M. Naouri, à rendre les 25 millions d'euros de bénéfices que vous avez fait sur le dos des salariés de Moulinex? C'est tout. Merci.
Vous savez parfaitement, madame, l'année passée, que cette question ne relève pas de l'ordre du jour, qu'elle relève de la polémique personnelle de M. Ruffin, quelques-uns autour de lui, qui est encore là encore une fois motivé pour des raisons qu'on ne connaît pas aujourd'hui mais qu'on connaîtra.
Monsieur Naouri, vous pouvez me donner le micro ?
Voilà, les questions ont été posées.
Ah, on a répondu. La question n'a pas été posée. Monsieur Naouri, laissez-moi la parole, on n'est pas venu. Messieurs, mesdames, les petits actionnaires. On est des gens très courtois, je vous assure. Mais oui, on est des gens très polis. On vous demande simplement de pouvoir poser nos questions tranquillement, comme ont le droit de le faire tous les petits actionnaires.
Monsieur, vous avez le droit de faire un rapport.
Écoutez, s'il y a obstruction, on va passer tout de suite au vote des résolutions. On va arrêter le débat ici, poser le vote des résolutions.
Est-ce que vous soyez d'accord pour reprendre le débat ensuite ? On vous l'a proposé plusieurs fois.
Préalablement au vote, je vais présenter.
Debout les petits actionnaires, debout les gérants de magasins. Ici résonne notre colère aux financiers, mordons la main. C'est la lutte à Jean-Charles, groupons-nous et demain. Assemblée.
C'est ça votre version du débat, monsieur Naouri. Vous envoyez les gros bras pour débattre sur la finance, sur Moulinex. Tranquillement. Attention, madame. Attention, madame. Excusez-moi, madame.
Se dégage.
Monsieur.
Donc là, on s'en fait tous dégager.
Y'en a marre, marre des pauvres. Les pauvres, ils font aucun effort pour devenir riches. Y'en a marre, marre des pauvres. Quand ils jouent au loto, ils réfléchissent même pas à ce qu'ils cochent. Y'en a marre, marre des pauvres. Et s'il y avait un peu moins de pauvres, mais y'aurait pas toute cette misère. Marre des pauvres, marre des pauvres. Y'en a nananana. Y'en a marre des pauvres, oh oui. Marre des pauvres, marre des pauvres. Y'en a nanana. Ils enrichissent les riches, du coup faut pas qu'ils s'étonnent, mais ils sont toujours aussi pauvres. Marre des pauvres, marre des pauvres. Il faut chier, il faut chier, il faut chier. Ils sont maigres. Marre des pauvres, marre des pauvres. Il faut chier, il faut chier. Ils mangent encore plus mal que nous. Y'en a marre, marre des pauvres. Les pauvres, arrêtez de vous plaindre, vous gâchez le bonheur des riches. Y'en a marre, marre des pauvres. Heureusement, les très très riches, tout le monde peut crever, ils s'en foutent. Y'en a marre, marre des pauvres. Et puis c'est facile de se plaindre quand on sait qu'on est la majorité.
Messieurs, dames, êtes-vous toujours fier d'être actionnaire de casino ?
Non seulement fier, mais comme on est les petits-fils, on est plus, très reconnaissant au grand-père.
Plus que jamais, d'autant plus que c'est mon grand-père qui l'a fondé.
Oui, donc
c'est
on est reconnaissant au grand-père et pour son courage et son humilité. C'était un super courageux qui travaillait toute la journée, même avec 7 enfants. Donc chapeau.
Mais quand vous voyez que M. Naouri a considérablement déréglementé la finance quand il était dans la politique et qu'après avoir déréglementé, il a pris la tête d'un groupe où il a fait des coups de bourse absolument phénoménaux sur le dos des travailleurs.
Écoutez, M. Naouri est un financier remarquable dont avait besoin le casino. J'ai 90 ans.
On va laisser ces personnes rentrer chez eux quand même. Hein.
On discute.
Laissez-moi vous dire, j'ai 90 ans, j'ai fait la guerre. J'ai failli faire tuer 5 fois pour mon pays. Je considère que je suis au paradis terrestre, même vous. Parce qu'il suffit de sortir de France, d'aller dans tous ces pays, même les pays où travaille le casino, que ce soit le Vietnam, tout ça.
Le Brésil, la Colombie.
Non, mais que ce ne soit pas parfait. Nous savons que la création n'est pas parfaite et qu'il y a le mal et qu'il faut travailler pour le bien. Moi, je vous encourage. Je suis mille fois d'accord avec vous. Mais s'il y avait une solution, s'il y avait une solution facile, elle serait déjà trouvée. Mais ça, c'est vous l'avenir de la France. C'est pas moi. Je suis borné, je suis mal foutu. Et j'ai donné ma vie pour mon pays. Mais moi je suis un profiteur, bien entendu, puisque j'ai des actions quasiment. Mais je rends grâce. La vérité se cherche, elle ne se possède jamais. Vous avez raison, mais vous n'avez pas l'impression maintenant que les financiers sont encadrés. Sont encadrés, quand même.
Bah, c'est-à-dire que comme ils ont changé eux-mêmes les règles, ils se sont auto-encadrés. Et ça, c'est le parcours typique de M. Naouri. C'est des choix de société trop importants pour que les gens...
Alors, je vais vous dire mon avis. Je ne donnerai... Si j'avais une fille à marier, je ne la donnerais pas à M. Naouri.
Oh, t'es...
Mais si j'avais une belle société à gérer, je la donnerais peut-être à M. Naouri.
Je maintiens, M. Naouri est un homme qui a du cœur. Donc, si vraiment vous avez raison, il vous comprendra.
Bon retour, messieurs, dames.
Si vous avez raison.
Bonne journée et bravo.
Encourageant quand même, hein. C'est l'avenir, ces contestataires. Hirsute, Éric Alcitran, c'est l'avenir, mais on entendra parler de cette affaire à nouveau parce que vous le savez peut-être ou peut-être pas, Jean-Charles Naouri poursuit là-bas ce j'y suis en justice pour diffamation, ainsi que le journal Fakir dirigé par François Ruffin, nous demandant des sommes assez importantes pour les préjudices qu'il considère avoir subi. Ben malgré tout ça, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter là-bas si j'y suis. Vous savez que France Inter a de bons résultats, médiamétrie d'audience, et là-bas si j'y suis aussi, vous êtes 400 000 à écouter cette émission chaque jour selon une forme de calcul, ou bien beaucoup plus, ou bien 550 000 selon une autre forme de calcul. En tout cas, merci à tous et à toutes. C'était un reportage de notre Julien Brigot à nous. Merci à Magui Lalizel, Sylvain Sagnier, Joël Henrès. Merci également à Pierre Souchon et François Ruffin. Merci à Maître Fromentin et Maître Bonfils. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Guillaume Roux et Élise Christophe. C'est Coyen Nguyen et Franck Caderère qui ont réalisé cette émission. Assisté d'Agnès Lebotte et Marina. Attends vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37 réclame.
Demain, France Inter est à Toulon.
Un an avant l'élection présidentielle,
une fois par mois,
les émissions de France Inter s'installent dans 12 villes de France.
Le Tour de France de France Inter.
12 mois.
12 villes.
12 éclairages.
Demain,
venez nous retrouver toute la journée
en direct de l'Opéra de Toulon.
16h et une poignée de secondes sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Antoine Balandra. Salut.
Il est soupçonné d'avoir tué son ancienne compagne et le nouvel ami de celle-ci. C'était à Marc-en-Barœul, près de Lille, hier soir. Un homme d'une cinquantaine d'années est toujours en garde à vue cet après-midi. Il est en cours de transfert vers Lille. Il avait été interpellé cette nuit à Thionville, en Moselle. Il s'y était enfui avec ses deux petites filles de 2 et 5 ans. 5 à 600 mineurs retraités se sont rassemblés aujourd'hui devant l'Assemblée nationale à Paris. Ils demandent le maintien de leur régime spécifique de sécurité sociale, mais aussi la revalorisation des retraites et pensions de reversion. Et pour se faire entendre, ils ont donc décidé de passer la journée sous les fenêtres des députés. Témoignage de Gilbert, un ancien mineur alsacien.
On perd deux choses. La première des choses, c'est qu'on nous remet complètement en cause la protection sociale. Vous savez qu'on avait une protection sociale tout à fait particulière qui garantissait la gratuité des soins jusqu'au dernier vivant. Et une médecine de proximité. On est en train de remettre tout ça en cause. On nous ferme nos dispensaires, on nous ferme nos consultations médicales. Et ça, c'est pas admissible. La deuxième chose, c'est la revalorisation des retraites. Des retraites et des pensions de réversion pour nos veuves. Il faut savoir qu'en 2001, les retraites de mineurs ont été valorisées jusqu'alors de 17%. Mais elles n'ont été valorisées que pour les mineurs partis en 2001. Ceux qui sont partis avant et qui n'ont pas eu cette revalorisation. Et ça, c'est inadmissible, parce que ce sont les plus anciens, sont ceux qui ont travaillé le plus, qui n'ont pas de revalorisation. Alors ça, on ne peut pas l'admettre.
Un des propos recueillis par Nathaël Charbonnier. SOS Racisme très en colère contre Claude Guéant. L'association reproche au ministre de l'Intérieur ses propos répétés sur l'islam et les musulmans. SOS Racisme a donc saisi la Cour de justice pour incitation à la discrimination raciale. Des propos contraires à la Constitution, selon l'association. Plus de frappes aériennes contre les forces du colonel Kadhafi. Voilà la promesse faite par Nicolas Sarkozy au président du Conseil national de transition libyen. Il le recevait en milieu de journée à l'Elysée. Ce matin, à la sortie du Conseil des ministres, François Baroin a confirmé l'envoi des premiers militaires français au sol. En fait, une dizaine d'officiers de liaison. L'ONU parle pour la première fois de possibles crimes de guerre à Misrata, notamment à cause de bombes à sous-munitions utilisées par les troupes du colonel Kadhafi. Le Crédit Agricole vole au secours du président de Skyrock, Pierre Bélanger. La banque va racheter 30% des parts détenues par le fonds d'investissement AXA, actionnaire majoritaire de la radio. Le Crédit Agricole a donc accordé sa confiance à Pierre Bélanger. Ils devraient mettre en commun leurs actions, ce qui va permettre aux fondateurs de Skyrock de reprendre le contrôle du groupe.
Tous les jours, oui. À partir de 11h,
si on a des grosses fesses, on va vivre vieux.
Le fou du roi.
Il faut être maigre avec un gros cul.
Stéphane Bern.
C'est vrai pour les femmes.
Retrouvez Stéphane Bern et toute son équipe demain jeudi dans Le Fou du Roi en compagnie de Patricia Cass.
Non, j'ai pas dit ça.
Le Fou du Roi, tous les jours sur France Inter à partir de 11h.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Rendez-vous pour des enregistrements en public du jeu des 1000 euros dans les Hautes-Pyrénées. Aujourd'hui à Séméac à 18h30 et demain à l'Alantri à 18h30 également. À très bientôt dans les Hautes-Pyrénées.
France Inter.
La différence.
16h04 sur Inter, c'est l'heure de Carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon. Bonjour.
Bonjour Antoine. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Tout à l'heure, dans 25 minutes, je recevrai Jean-Marc Louisada, fameux pianiste. On va écouter son disque Chopin, récemment paru. Et puis aussi, on va parler de ces 5 concerts qui seront proposés le 30 de ce mois à la salle Gaveau. Jean-Marc Louisada avec Macha Meryl, tous les deux, ils ont monté cette affaire-là qui était énorme. L'argent va être entièrement reversé à la Croix-Rouge française, au profit de la Croix-Rouge japonaise, bien sûr, et en faveur des victimes du séisme survenu au Japon le 11 mars 2011. Donc, pléthore d'artistes, on en parlera. Mais avant, je vous remercie parce que, effectivement, nous avons reçu les résultats d'audience et on est très contents puisque, en audience cumulée, cette émission reçoit 617 000 auditeurs par jour. Donc, merci aux 617 000 auditeurs qui nous écoutent et on vous embrasse en plus. Ce qui permet d'être efficace pour annoncer des spectacles, par exemple, comme Oberon, dont j'ai déjà parlé hier, au théâtre du Capitole de Toulouse. Donc c'est un peu difficile de comprendre l'intrigue qui va entre évidemment Shakespeare, Le Songe d'une nuit d'été, et puis L'Enlèvement au sérail ou La Flûte enchantée de Mozart. Ça va un peu dans tous les sens, mais il faut compter que la musique surtout est absolument extraordinaire. C'est une œuvre de la fin de la vie du pauvre Karl Maria von Weber qui est allé s'éteindre frappé par la tuberculose, et voilà, peut-être les dernières joies qu'il a eues dans son existence, et sous la direction de Rani Calderon avec beaucoup de solos. L'orchestre du Capitole de Toulouse, évidemment, fera merveille avec le chœur du même Capitole. Voici un peu de l'ouverture d'Oberon de Karl Maria von Weber.
Thank you.
We'll be right back.